c'est très, très, très général comme manière de discuter, mais disons que c'est intéressant. La mise en équilibre ou la mise sous tension qui m'intéresse ici, c'est si on reste auprès du problème de la formalisation et de l'informalisation, c'est essentiellement l'idée que la richesse, c'est un rapport de dette mutuelle. Hein? Toute la richesse accumulée, exprimée en signes financiers, sous forme de prix, même si franchement, ça serait peut-être quelque chose à ouvrir. Le prix de nos jours, je ne suis pas certain que ce soit la forme la plus adéquate pour exprimer la richesse telle qu'elle existe. Je pense qu'on est bien au-delà de ça avec les véhicules financiers dérivés, l'ensemble de ce qu'on appelle derivatives, abstrait la forme même du prix, je dirais. Ça peut être quelque chose à discuter plus tard. Il y a quelque chose de paradoxal dans la question du dérivé, puis de la manière que le prix est abstrait, parce que le dérivé, c'est essentiellement l'ouverture d'un intervalle temporel partagé. Anna pourrait peut-être le décrire mieux que moi, mais il y a un groupe de gens qui jouent au jeu de miser ensemble sur des valeurs et ouvrent en misant un espace temporel partagé. Cet espace temporel-là, il se réduit pas à un prix nécessairement. Il y a un rapport de puissance qui est la puissance du capital. Le capital, c'est pas que de l'argent, c'est un rapport temporel qui est ouvert mutuellement, qui nous amène à réfléchir à comment cet intervalle temporel reste ouvert. Disons. Puis là, en posant le problème de comment l'intervalle temporel reste ouvert, ça pose la question de la liquidité. Pour que la richesse telle qu'elle s'est accumulée ces derniers siècles soit toujours valide, elle doit rester fluide, elle doit rester liquide. Et c'est le sens même des interventions des banques centrales en 2008 et en 2020. De faire des emprunts massifs dans un monde parfaitement fictionnel, le monde du futur. On injecte de la liquidité sur base d'endettement, sur des bases qui sont parfaitement fictionnelles, purement et simplement pour maintenir la liquidité qui va permettre à toute la richesse accumulée de continuer à se comprendre comme une richesse active et non simplement désuète. Alors, et tout ça, et maintenu à flux tendu, et à flux tendu qui sont de plus en plus fragiles, de plus en plus inavouables, si on peut dire. Et c'est là où peut-être se pose la question de la justice, telle que Fabien la ramène depuis le début de l'après-midi. Mais disons que pratiquement parlant, pour poser le problème de la justice en rapport à la finance, il faut se donner les moyens de produire quelque chose d'aussi simple que de l'illiquidité. La révolution, au sens le plus classique du terme, pourrait être réenvisagée au 21e siècle comme production systématique d'illiquidité. En la comprenant comme production d'illiquidité, on va peut-être se donner des moyens un petit peu plus conséquents pour intervenir dans le jeu de transmission abstraite de ce qu'on appelle richesse ou capital. Donc ça c'est le genre de considérations avec lesquelles on travaille ou on travaillait à Economic Space Agency. Tout ça motivé par la promesse plutôt utopique de contester le monopole de l'émission monétaire des États. Donc tout ce qui s'appelle blockchain, crypto-monnaie, c'est une promesse en partie réalisée par certains techno-libertariens sous la forme de Bitcoin, mais ce n'est pas l'unique forme de crypto-monnaie possible. Mais c'est essentiellement l'idée de revenir à une époque pré-1971, donc de revenir à ce qu'on peut appeler un maximalisme de la valeur, de sortir de la fluctuation d'échanges et de ramener un étalon de valeur à partir duquel véritablement faire sens de toute cette richesse. Donc, il y a un grand rêve néo-réactionnaire dans la proposition de Bitcoin, et tout le challenge du côté d'Economic Space Agency et de d'autres groupes qui œuvrent dans le monde de la blockchain et de la crypto-finance, c'est de réfléchir à ce que pourrait faire ou à ce qui pourrait advenir à partir du moment où il y a une multiplicité d'émissions monétaires qui soient fondées sur d'autres puissances que les puissances étatiques. Donc, un jeu de formalisation, il faut imaginer déjà des entités capables d'émettre des promesses monétaires, puis des promesses monétaires qui soient suffisamment solides, robustes, tant au plan technologique, computationnel que politico-social, qui puissent commencer à menacer l'hégémonie des monnaies émises par les banques centrales. Donc ça, c'est un peu l'utopie là, à partir de laquelle la proposition de Economic Space Agency s'articule. Donc, cet élément-là, plus particulièrement, une pédagogie de l'illiquidité, puis une pratique de l'illiquidité, c'est l'horizon révolutionnaire qui m'a intéressé, là, disons, en termes d'activisme crypto-financier. Ça reste extrêmement difficile à imaginer, c'est-à-dire, c'est peut-être un peu plus facile à imaginer, c'est très, très, très difficile à mettre en œuvre. C'est là où le Averted Capital comme proposition m'intéresse beaucoup parce qu'il y a, il y a un travail à faire, je dirais même juste au niveau de ce que ça signifie, commencer à réfléchir à d'autres formes d'incorporation de la valeur qui remettent en question qui nous permettent de défier l'effet de fascination produit par le capital tel qu'il se reproduit à notre époque. Donc, un des trucs que j'aurais aimé faire en personne, c'est lire ensemble ce petit résumé de l'anti-Édipe en mots d'une syllabe. Ça a été écrit par John Protelli. Je trouve ça magnifique parce que souvent, quand on réfléchit aux questions de valeur, on reste souvent pris dans la grammatisation marxiste de ce que c'est la valeur, donc valeur d'échange, valeur d'usage. On n'en sort pas, alors que quand même, Deleuze et Guattari ont proposé une lecture assez stimulante de la distinction entre flux monétaire et flux financier. Puis il y a cette idée très pragmatique qui me plaît beaucoup, puis c'est là où ça rejoint l'expérimentation crypto-financière, l'idée qu'est-ce qui arriverait si on commençait à émettre différentes formes monétaires, mais ça veut dire qu'on assume la puissance d'un code. Donc, je vous épargne le résumé. Franchement, c'est virtuose comme résumé de l'anti-Édipe. Je vous le recommande. Et là, il y a le chapitre 3 de l'anti-Édipe, qui est une relecture de Nietzsche, de la question de la promesse, la question du marquage des corps, qui rejoint d'assez près, je crois, Averted Capital. C'est peut-être aussi là où j'ai entendu Inigo parler des blessures infligées dans un système abstrait qu'on appelle l'économie. Donc, je vous lis cette partie 3 qui donne un sens, qui donne à penser ce que ça signifie s'incorporer dans la production d'un code financier à venir. Donc, ça va comme suit. A tribe will scar your skin to mark a code on you, so you know what is your part of a flow and a break and a flow and a break and so on. The king will want to make the code for a flow and a break and a flow and a break and so on be his code. Us, now, we let the old code break down and now we let a flow and a break and a flow and a break and so on run free. But we too have a code. Do what you want as long as you can make a cut in a flow and keep some. It is a hell of a way to run a code. You have to go to the moon and start a war and so on just to keep that code at work. Donc, j'ai souligné ce passage parce que j'imagine pour des conditions très, très pragmatiques, je m'y identifie. C'est extrêmement difficile de contester le pouvoir de la finance tel qu'il existe à partir d'une proposition crypto-utopiste de démission plurielle de crypto-monnaie. Et ça implique de réfléchir à des formes d'incorporation au niveau le plus basique. C'est-à-dire, quand on réfléchit à la finance de façon pragmatique, on se rend compte que la finance, c'est essentiellement des modes d'organisation des flux. Et plus on descend, donc la finance, c'est, disons, le code le plus abstrait, le plus universel, hein, c'est ce qui est le plus près de ce qu'on peut imaginer comme une universalité effective dans notre monde. Et plus on descend, plus ben, on rencontre des éléments, des banques, des groupes, des entreprises, des multinationales et jusqu'à des petits groupes d'intérêt, jusqu'à des petites start-up animées de beaucoup de désirs et de pas nécessairement beaucoup de moyens. Donc, du point de vue de l'expérience pratique d'Economic Space Agency, réfléchir à la question des flux financiers nous amène à réfléchir à la question de l'organisation. Ici, j'imagine, recoupe de près là, ce qu'on a discuté plutôt sur théorie des jeux, manière de concevoir l'émergence de normes, normativité naturelle, etc. Donc, le point final, mon landing point pour aujourd'hui, ça va être une petite phrase qui m'a un peu sauvé la vie ces derniers mois, parce que c'est des trucs assez vertigineux là, sur lesquels nous travaillons. Et c'est une petite phrase qui vient des Collected Stories de Lydia Davis, qui va comme suit. « Like a tropical storm, I too may one day become better organized. » Donc, comme une tempête tropicale, moi aussi, je deviendrai peut-être un jour mieux organisé. Puis ça, disons, c'est mon point de fuite là, dans tout ce délire financier, crypto-financier. Il y a une prétention d'organisation qui travaille au cœur du capital. Et j'arrive pas à me poser la question de l'organisation à partir des bases communistes traditionnelles. Ça nous tombe des mains. Personne a envie de s'organiser en partie et selon les codes établis par Lénine et Staline, etc. Donc il faut s'offrir peut-être une autre image de pensée. Et pourquoi pas celle de la tempête tropicale? Enfin, moi, ça me plaît beaucoup comme possibilité écologique de réfléchir à d'autres manières de faire système qui soient à la hauteur des nouvelles théories des probabilités et des manières les plus contemporaines de concevoir l'indétermination. Donc, l'indétermination relative d'une tempête tropicale, peut-être que ça peut être un des paradigmes à partir desquels réfléchir à des nouvelles formes crypto-financières, politiques, etc. Je vais clore là-dessus.